Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans COP Paris, votre rendez-vous tous les lundis depuis plus de 4 ans avec le PSG sur BFM Paris-Île-de-France, émission très spéciale ce soir puisque ce sera la dernière de COP Paris après plus d'une centaine d'émissions et événements particuliers, casting exceptionnel ce soir avec la crème de la crème des chroniqueurs de COP Paris. J'ai le plaisir d'accueillir pour la première partie alors notre journaliste, acteur, créateur du contenu, l'homme à tout faire, Jonathan Ferdinand. Salut Joe.
Salut Julien, salut les gars.
Franck Dessous, supporter du PSG et oracle d'Ousmane Dembélé est là également. Salut oui. Franck.
Salut Julien.
L'écrivain de la bande, Clément Pernia, journaliste et auteur de plusieurs ouvrages sur le PSG. Salut Clément.
Salut Julien, salut à tous.
Et monsieur Farid Rouaz qui reçoit tous les anciens joueurs du PSG dans ses lives.
C'est vrai, Farid. Salut, merci. Bonsoir à tous.
Allez, on y va pour le sommaire. Émission bien remplie avec le débrief d'un très emballant Lyon-PSG, la victoire avec les tripes, Vara et Hakimi au top et le show John Textor. On y reviendra dans quelques instants. La Ligue des Champions, bien évidemment. Le PSG connaît le menu. Il sera copieux avec Liverpool en 8e de finale. Décryptage de cet énorme choc qui attend le PSG dans 9 jours déjà pour le match aller. Et puis on refermera la belle aventure COP Paris avec un quiz spécial PSG. Bien évidemment, 2 équipes, une vingtaine de questions. On va tester, messieurs, vos connaissances et vos souvenirs sur l'histoire, la grande histoire du PSG. COP Paris, c'est la dernière. On va en profiter. C'est parti. Bon, on a été plutôt bien servi pour débriefer notre dernier match dans COP Paris. Début de la tension, un scénario presque renversant. Ce Lyon-PSG nous a offert beaucoup d'émotions. On va revoir les images de la rencontre avec l'ouverture du score parisienne à la 53e minute. Doué pour Barcola qui sert à Kimi au second poteau. 1-0 pour le PSG, 2-0 quelques instants plus tard avec l'intenable Ousmane Dembélé qui s'offre un 17e but cette saison en Ligue 1, enchaînement magistral. Et alors que le PSG menait tranquillement, le match s'emballe. Ryan Cherki réduit l'écart pour l'OL. Hakimi doublé, redonne ensuite 2 buts d'avance avec au passage le geste exceptionnel de Gonçalo Ramos. Et puis Lyon recolle une nouvelle fois avec Corentin Tolisso cette fois-ci qui permet à l'OL de revenir à 3 buts à 2. On en restera là finalement. Qu'est-ce que vous retenez, messieurs, de cette rencontre? Contenu, résultat, la fin de match, un petit peu de tout?
Un petit peu de tout. Je pense qu'on est sur un PSG qui est sérieux et qui, depuis le match aller contre Lyon en Ligue 1, montre de belles choses. Même Salzbourg en Ligue des Champions, où on a un projet qui est cohérent, on comprend où ça va, et les résultats suivent. Donc oui, le contenu, un peu de tout, et le résultat, bien évidemment.
Franck, PSG sérieux hier. Ils ont fait un bon match dans l'ensemble. On va juste retenir malheureusement les 2 buts pris. Mais bon, je pense qu'ils n'ont pas su bien gérer leur temps faible. Mais oui, sérieux Paris Saint-Germain hier.
Luis Enrique est un petit peu agacé en fin de match. Il disait on a plus joué avec le cœur qu'avec la tête en fin de match. Mais c'est aussi le genre de match de scénario qui fait grandir, qui donne du caractère à l'équipe.
Exactement, on peut le voir, le Paris Saint-Germain a grandi en personnalité, en générosité sur le terrain. Bon, ce type de choc entre les deux géants sont souvent synonymes de spectacle et de but. On a été gâtés hier, mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain ne doit pas répéter ses erreurs en fin de deuxième mi-temps. Mais je fais confiance à Enrique pour y remédier.
Un petit peu irrationnel quand même la fin de match, parce que pendant 80 minutes, le PSG a roulé sur l'Olympique Lyonnais et puis il y a eu 10 minutes quand même beaucoup moins abouti.
Elle ne reflète pas du tout pour le coup la rencontre, cette fin de match, parce que Paris a roulé sur Lyon globalement pendant 80 minutes. Lyon d'ailleurs, parenthèse, qui a été exécrable pour un rencontre à domicile. Ouais, c'est quand même lamentable de proposer ça.
Comment ça joue avec l'entrée de Mikotadze
devant son public. Paris fait une première mi-temps correcte mais moyenne, parce que pelouserie, parce que déchets techniques,
parce que Lyon n'a pas voulu jouer. Erreur
de contrôle et de passe. Et ils se sont mis à jouer en début, enfin, à jouer accéléré en début de deuxième période. Et là, l'écart, il est abyssal entre les deux équipes, à l'image un peu de ce qui se passe avec les autres ténors de Ligue 1, Marseille, Monaco, Lille. Pour l'instant, Paris marche sur tout le monde.
Eh bien, tiens, on va regarder le classement pour s'apercevoir que le PSG a, je pense, définitivement assommé la Ligue 1. 13 points d'avance sur l'OM qui a perdu à Auxerre à 11 journées de la fin. Messieurs, la question n'est plus de savoir. Vous pouvez me dire le contraire si vous avez envie de jouer le faux suspense. Si le PSG sera champion, la question, c'est est-ce que le PSG restera invincible?
Oui, je pense. Franchement, je pense qu'il y a moins qui reste invincible. Il reste quoi, 13
matchs.
13 matchs,
ouais. 11 matchs.
11 matchs, donc oui, je pense que, à part gros cataclysme, il devrait terminer la saison invincible.
Après, il reste Lille entre les deux matchs de Liverpool et on connaît le PSG entre les matchs de Ligue des Champions.
Rennes.
C'est Rennes qui tourne bien. Bon, ça va, alors c'est pas Lille. Moi, ce que je retiens aussi du match d'hier, c'est que certes, le PSG a joué avec le cœur, mais a aussi joué, qui dit cœur, dit aussi caractère. Ouais. J'ai pas vu une équipe qui s'est liquéfiée comme Monaco peut le faire, comme Manchester City peut le faire, dans les temps faibles.
Le PSG l'a déjà fait alors, dans d'autres compétitions, sur des scénarios qu'on n'attendait pas.
Exactement.
Le principal adversaire, je pense, c'est le Paris Saint-Germain. S'il n'y a pas de blessure, de suspension, le Paris Saint-Germain peut viser ce record d'invisibilité de 94.
Je pense que ça doit être un objectif
Le PSG. C'est pas un objectif selon Luis Enrique.
Oui, mais il le dit pas. Ça doit être un objectif. Ça aurait une portée historique. Je pense qu'il faut pas le sous-estimer. C'est vraiment exceptionnel.
Ça n'a jamais été fait. Jamais été fait. 32 matchs en 95.
Aujourd'hui, c'est clairement jouable. Je pense que, comme l'a dit Joe, si tu passes l'échéance Rennes, il y aura un déplacement à Strasbourg qui peut être compliqué aussi. Ça dépend.
Il reste Nice aussi, mais c'est plus tard.
Ouais. Voilà, c'est largement faisable. Donc il faut.
Il reste Marseille aussi.
Marseille.
On en a pas parlé.
C'est vrai. Avec un match particulier.
Marseille au Parc, depuis 15 ans quand même.
C'est juste après Liverpool retour. Donc ça.
Mais il y avait un piège. C'était Lyon hier soir, puisque c'est Lyon qui a privé le PSG en 2015-16 avec le but de Darder. Donc le premier piège est passé pour l'invincibilité.
Les top flops de ce Lyon-PSG, alors il n'y aura pas de flop pour la dernière, mais deux joueurs impressionnants hier soir que l'on a voulu ressortir, Gvisha, Kvaratskhelia, élu homme du match, c'est dire... S'il a brillé hier soir, parce que sur la feuille de stats, il n'y a finalement qu'une passe décisive, entre guillemets, mais la sensation, elle est là, qu'il est en train de se libérer, Gvisha.
Oui, et puis il y a des joueurs, il faut aller au-delà de la stat. C'est pareil, en Liga, on parle de Lamine Yamal qui n'a pu marquer depuis le mois d'octobre. Mais en fait, c'est des joueurs qui créent des choses au-delà des stats, qui déséquilibrent des équipes, qui créent des occasions. Et Kvicha, je devais dire Kvicha, sinon je ne vais pas y arriver. Et Kvicha arrive à créer des choses aussi vite.
Bah, ça passe donc... sur le but de Dembélé, par exemple, personne ne s'y attendait.
Exactement. Et puis
sur
en soi.
La passe pour Dembélé en première période, aussi, sur le sauvetage de Clinton Mata, elle est dingue.
Et même si on veut être comptable, 2 buts, 3 passes D en 6 matchs, c'est pas non plus exécrable pour
C'est vrai que pour Kvara, moi je vais dire Vara, c'est plus simple. on voit que les connexions avec ses coéquipiers ne sont pas encore parfaites, mais on le sent comme hier, on le sent monter en puissance, en confiance, et c'est de bon augure pour la fin de saison.
Il sera forcément titulaire dans les grands matchs à terme ?
Oui, il sera titulaire parce que naturellement et techniquement, il est plus fort que les autres. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il apporte une solution numérique supplémentaire à Luis Enrique. On a souvent dénoncé l'absence de solution, l'absence de concurrence. Là, depuis qu'il est là, ça permet de mettre un peu en concurrence Barcola, Désiré, Edoué, Lee Kangin qui joue un peu moins. Et tous ces joueurs-là sont bonifiés, je pense, par l'arrivée d'un joueur de qualité et qui peut les défier.
L'autre grand bonhomme hier soir, Achraf Hakimi, auteur d'un doublé, match confirmé qui confirme, s'il le fallait encore, la dimension offensive exceptionnelle prise par Hakimi. Y a-t-il un joueur aussi fort que lui dans ce registre-là, à l'heure actuelle, au poste de latéral ?
C'est difficile.
Pour moi, c'est le meilleur au monde. Ouais.
Déjà, c'est le meilleur joueur du PSG. C'est le meilleur joueur du PSG.
Tu le mets devant Dembélé ?
Ouais. Depuis le début de saison, pour moi, Dembélé, il est en forme olympique depuis 2025. Mais
Hakimi, il a eu un titre de. Si les trophées UNFP avaient lieu aujourd'hui, le meilleur joueur de Ligue 1.
Pour moi, c'est Hakimi.
Pour toi, c'est Achraf Hakimi.
Oui, pareil, je suis d'accord.
Moi, j'aurais dit Dembélé.
C'est pas toi le défenseur de Dembélé ?
C'est moi. Moi, je suis le défenseur d'Hakimi.
Ah ouais ?
Oui, oui.
Alors.
Pour moi, c'est un cadre, il est régulier.
Et puis, il a enfin un régulier. Il a un vrai problème au Paris Saint-Germain. Il y avait toujours des périodes où c'était bien, moins bien.
Mais là, il est
bien
ces derniers temps aussi.
Par rapport à ce qu'il avait connu comme période de moins bien au PSG, on va dire.
Il est infatigable. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il boit, ce garçon.
Exactement.
Il a fait faire 25 kilos.
Et hier, il était un petit peu habité. Il a failli prendre un rouge, Achraf Hakimi, en tout début de match. Alors, la demi-heure de jeu avec Taliafico. Juste, je voulais revenir sur la scène avec Luis Enrique qui vient recadrer Achraf Hakimi. C'est le patron.
Il a raison puisque c'est sa marge de progression. Il est vice-capitaine. Il ne peut plus faire ce genre de choses. Il doit montrer l'exemple. Il a atteint un certain âge, une certaine maturité. Il ne peut plus mettre son équipe en galère comme ça parce que s'il y a rouge en soi.
Il doit prendre rouge.
Mais Luis Enrique aussi a démontré que c'était un exemple, le patron. Et il a très bien fait. Je pense que d'autres coachs n'auraient rien fait. Et lui, il est parti le reprendre et bravo à lui.
La dernière image forte de ce Lyon PSG, on ne pouvait pas faire l'impasse là-dessus. Le show John Textor, à l'avant-match, on va voir les images. Il est arrivé avec son chapeau de cow-boy en réponse aux propos de Nasser Al-Khelaifi dans ce fameux échange d'il y a quelques mois sur les droits TV de la Ligue 1. Vous en avez pensé quoi ? Cette bonne guerre, il en fait trop ?
Moi, j'ai trouvé ça excellent. Ouais. Franchement, j'ai trouvé ça excellent. C'est bien placé, c'est fin, c'est plein d'humour, c'est une bonne réponse. J'étais assez triste de pas avoir Nasser hier. Parce que la séquence date. Mais la séquence date du 14 juillet, donc ils se sont reparlés depuis a priori. Ça aurait été une bonne image de les voir se serrer la main, être à côté en tribune. Voilà, j'aurais bien aimé voir ça.
Juste un plan où ils sont tous les deux à côté.
C'était la première partie
parfaite. Mais oui, le divertissement, c'était très marrant. John Mayer.
Mais il y a eu quand même
ça a ravivé quand même un petit peu la tension. Alors je sais pas si on peut parler de tension sportive, mais entre Lyon et le Paris Saint-Germain, il n'y a pas eu que John Textor, il y a eu des tifos, des banderoles. On sent quand même une certaine animosité entre Lyon et le Paris Saint-Germain.
Oui, bah c'est à l'image.
C'est pas sportif.
Non, c'est pas sportif. C'est à l'image des dernières déclarations des présidents dans la presse, etc. On sait que de toute façon, pour l'histoire des diffuseurs et des droits télé, il y a une vraie rivalité. Il y a deux grilles de lecture. Il y a la team Textor et la team Nasser Al-Khelaïfi.
Il y a une sorte de croisade de John Textor contre le modèle du Paris Saint-Germain, QSI, la collusion. Enfin, ce sont des choses que dénoncent aussi d'autres présidents. Textor est à la pointe de ce.
Oui, mais tout à fait. Mais Textor, on a pu le voir depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais en 2023. Il a dans le collimateur Nasser Al-Khelaïfi. Mmh. Donc il est certainement, c'est de la jalousie mal placée,
je pense. C'est de la jalousie.
Et voilà, après.
Mais Aulas à l'époque était un peu pareil. Ouais. Aulas avait sa forme de
rivalité.
Oui, mais
il a pris le temps, je pense.
Déclarations, il était souvent, voilà, il critiquait souvent le manque de d'équité, de concurrence. Et ça donnait du piment au PSG Lyon. À chaque fois, on attendait un peu.
Il y a un match dans quelques semaines, quelques mois même, on va pas se mentir, dont on se fout peut-être un petit peu sur le papier, c'est PSG Botafogo, la Coupe du Monde des clubs.
Mais non, ça va être sympa.
Club de la Galaxie Textor, il a déjà donné rendez-vous. Ça va mettre un petit peu de piment.
Oui, moi, j'aime bien ce genre de sortie. Ça donne un contexte à un match. Ça donne une rivalité. Ça la crée. Même peut-être de toutes pièces, mais au moins, ça raconte quelque chose et ça change aussi la physionomie du match. Mm. Il disait quelque chose dans l'after sur RMC il n'y a pas longtemps, c'est que qu'est-ce qu'on raconte en Ligue 1 comme histoire, ouais. John Textor, il disait ça. Il y avait eu un exemple très bizarre sur les filles du Havre. Il avait dit, est-ce que les filles du Havre sont chaudes? Il avait dit un truc très bizarre.
Je suis passé à côté, mais on va
il avait dit ça. En fait, il disait qu'en Ligue 1, on raconte pas d'histoire. Ouais. Mais au moins, là, on raconte des histoires.
Il s'est passé quelque chose.
C'est peut-être du hors-foot. Je la raconterai. C'est peut-être du hors-foot. Mais au moins, on a des choses à raconter. On a un produit et on raconte des choses. C'est pas, on lance un match à 20h45 et à 20h.
C'est chaud.
C'est sûr que c'est pas longueur qui raconte grand-chose.
La pluie du puits, voilà, de ce week-end et la baie des Champs. Hein. Je pense que là,
les amis, petite coupure pub. On vous retrouve dans quelques minutes. On va changer de chroniqueur. Vous revenez en dernière partie pour le quiz. Et dans quelques instants, on parle de Ligue des Champions avec la menace Liverpool qui se précise pour le PSG. À tout de suite. C'est la dernière de Cop Paris. On fait du coaching ce soir avec un changement total de casting en plateau. Quatre nouveaux chroniqueurs, les historiques de l'émission. Notre juriste, futur avocat, ça peut toujours servir. Matteo Moreau.
Oui, futur avocat, mais viré quand même. Hein. Donc, pas si utile que ça, malheureusement.
Dans un tout autre style, mais ça sert aussi pas mal. Notre DJ, Stéphane Jeanne, qui est là également.
Viré aussi, mais bon, on va fêter ça du coup.
Salut Steph, le rédacteur en chef de l'une des plus grosses communes PSG, Jonathan Bensadou.
Bon, rien que ça. Salut à tous.
Dorénavant, la plus grande.
Et le plus fin connaisseur, pas que, mais d'Achraf Hakimi, Saïd Amna, journaliste sportif.
Plaisir d'être là pour la dernière.
Allez, le casting est au complet. La deuxième partie Ligue des Champions, c'est maintenant. Bon messieurs, J-9 avant le retour de la Ligue des Champions. Ça s'annonce comme un immense blockbuster PSG-Liverpool. 8e de finale, aller, match aller au Parc des Princes le 5 mars. Tout le tableau est déjà tiré, on vient de le voir. Alors en cas de qualif, ça sera le vainqueur de Bruges-Aston Villa. C'est mieux sur le potentiel tour d'après. On est très loin pour l'instant de ces quarts de finale parce que le PSG va affronter ce qui se fait peut-être de mieux à l'heure actuelle. Liverpool, meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle ?
Oui, je crois, et pour faire très court, parce qu'on est beaucoup, je pense qu'on aura droit à une double confrontation exceptionnelle. Vraiment épique. Je ne sais pas de quel côté elle penchera, mais épique.
Est-ce que Liverpool est encore, toujours, la meilleure équipe d'Europe, malgré ce petit coup de moins bien de ces 2-3 dernières semaines, Saïd ?
Liverpool est prenable comme n'importe quelle équipe. Liverpool et le PSG sont les deux équipes qui ont le plus marqué toutes compétitions confondues. Donc on va avoir un vrai rapport de force au niveau offensif. Liverpool a gagné hier contre Manchester City, mais on a quand même pu constater quelques défaillances, notamment Alexander-Arnold qui s'est bien fait taffer par Jérémy Doku. Ouais. Nous, les profils qu'on a avec Barcola, Dembélé, on peut aussi espérer un petit peu creuser ces failles-là côté Liverpool, mais moi je pense que Paris a toutes ses chances. De toute façon, c'est le moment où on va voir si le plan de Luis Enrique, qui arrive un petit peu à maturité, va réussir à passer ce cap ou si on a encore besoin d'un peu plus de travail.
Vous auriez préféré, juste petite parenthèse, tirer le Barça ou Liverpool, c'est tout aussi bien, Joe ?
Bah, c'était l'un ou l'autre, de toute façon, c'était les deux meilleures équipes d'Europe actuellement. Bah, disons que je pense que le Barça sont peut-être plus forts et plus imprévisibles offensivement, mais il y avait plus de failles défensives. Là, Liverpool, t'as quand même tout de suite sur du très gros morceau, mais ce qui est normal, c'est que nous, on parle sur du prisme PSG, mais il faut se mettre aussi à la place de Liverpool. Les mecs se sont cassés la tête quand même depuis 5 mois pour essayer de finir premier, essayer d'avoir un tirage facile.
24.
Voilà, et finalement, pour en fait tomber sur le Paris Saint-Germain, qui est dans une forme exceptionnelle, à la limite que le PSG joue contre un gros quand ils finissent 15e, bon, c'est mérité, c'est pas un scandale, mais qu'en finissant premier, ils tombent sur le PSG. Il faut quand même penser à eux. Il y a un cop Liverpool qui doit un peu avoir les boules. Là.
Mais il a raison. Et a fortiori, je pense que c'est bien pour le PSG de jouer à Liverpool parce que c'est une affiche inédite. Quand même, globalement, on ne les a pas joués depuis 2018. Ouais. Première fois en phase finale. Et Barcelone, il y a un tel passif qui s'est créé qu'il y a quelque chose de toujours un peu embêtant. Enfin, très sympa, mais embêtant, ce côté hostile avant chaque confrontation. Où là, il y a vraiment, je le dis, une confrontation épique. Même les étrangers ont hâte de ce match. Et les Barcelonais, on en fera
de
plus.
C'est ça que j'aime bien avec le Barça, c'est qu'on est devenu un petit peu les ennemis européens. Donc du coup, il y a une histoire, il y a un background.
Oui, mais certains considèrent que les comptes ont été soldés après la remontada, qu'il fallait voir autre chose.
Ce sera jamais soldé.
Ça me fera toujours. Ça ne sera jamais soldé.
Jamais. Et moi, j'ai envie de poser la question
éternelle.
Ce qu'on dit, Liverpool meilleur récupère européenne, pourquoi pas se poser la question si c'est pas Paris en fait aujourd'hui.
Saïd le disait, effectivement, on va avoir les images. Petit coup de moins bien pour Liverpool depuis quelques semaines, malgré quand même la victoire hier à City 2-0, but de l'intenable, inévitable Mo Salah et de Szoboszlai. Cette équipe de Liverpool a-t-elle des failles selon vous? Tu as déjà un petit peu évoqué le sujet avec les latéraux notamment.
Oui, pour moi, ils ont des failles. De toute façon, ça va être vraiment un rapport de style. Je pense que Paris est une équipe qui est très imprévisible. C'est une équipe qui fait beaucoup d'efforts, notamment sur le plan défensif et sur le plan offensif, qui n'arrête pas d'aller de l'avant. Donc je pense que Liverpool va avoir des difficultés. On a des joueurs comme Virgil van Dijk qui ne sont plus les mêmes, même si ça reste Virgil van Dijk sur une double confrontation. Il peut sortir le match de l'année. Mais je pense que défensivement, Liverpool, ils sont aussi friables. Peut-être c'est là aussi où Paris aura l'occasion de trouver la faille, parce que offensivement, je pense que Liverpool, c'est tout aussi bon que Paris, si ce n'est mieux.
C'est une opposition de style. Qu'est-ce qui les rassemble? Qu'est-ce qui les différencie?
Pour moi, c'est les deux mêmes équipes. Ce qui va être absolument fascinant, c'est que eux, leur point faible, à mon sens, pas fondamentalement les centraux, mais les latéraux. Et donc les duels Barcola, Kvara, Dembélé face à leurs latéraux, ça peut être dangereux. Et de l'autre côté, je pense exactement la même chose. Je pense que le duel Mohamed Salah, Nuno Mendes, il peut nous donner beaucoup de sueur froide. Et le milieu de terrain, ça va se battre dessus. Pour moi, les latéraux, le milieu de terrain, ça va se jouer là.
Ouais. Le facteur Anfield au match retour, est-ce que c'est un immense avantage pour les Reds ou pas plus que ça?
Bah oui. Ouais. Bien évidemment. Ouais. Non, parce que surtout, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont aussi le passif, j'ai envie de dire, de ces matchs retour de Ligue des Champions, dans cette ambiance un peu folle. Ils connaissent ça. Mm-hmm. Même s'ils sont en difficulté, on l'a vu en 2018 contre le Barça, même s'ils sont en difficulté, bah, ils savent qu'ils peuvent renverser n'importe quelle montagne. Donc,
cette saison n'a pas vraiment existé à l'extérieur et ça reste une des problématiques. Le PSG à l'extérieur en Ligue des Champions, y compris sous Luis Enrique.
On peut voir le problème dans le sens inverse, sachant que Liverpool est quand même favori, même si Luis Enrique dit que c'est du 50-50. On est quand même plus ou moins à ça. Mais d'aller commencer au Parc et, par exemple, gagner le match aller, c'est aussi un gain de confiance. Et d'aller à Liverpool sans avoir le stress de se dire
que je dois rattraper. En 97, pour les plus anciens, ils ont 3-0 au Parc et défaite. Le PSG avait pris la foudre à Anfield, mais n'avait perdu que 2-0.
Et tu vois, et de se dire que finalement, tu arrives avec la confiance et que tu n'arrives pas avec cette pression de te dire « je dois rattraper un résultat ». Et je pense que ça peut aider aussi psychologiquement les joueurs du PSG.
Stéphane ?
Écoute, moi, je reste quand même sur notre passé pas si lointain où, sur les matchs retour, mentalement, on n'est pas toujours au niveau. Mm-hmm. Là, j'ai quand même l'impression qu'il y a un changement de comportement et de mentalité depuis quelques matchs, depuis City au Parc. Mais je reste prudent. Ouais. Mais en même temps,
forcément de corrélation entre cette sorte de maturité qu'il faut avoir dans ces moments-là et la qualité de jeu que le PSG développe en ce moment.
Et je pense moi, que, au contraire, c'est très lié. Parce que je crois que toutes ces faillites mentales qu'on a pu connaître, notamment, on va dire 2017, 2018, toutes ces choses-là, pour moi, c'était corrélé au fait qu'on avait une équipe qui était très peu structurée, qui dépendait d'individualités très fortes, mais qui, lorsque finalement ces individualités ne brillaient pas, été troué par l'incertitude. Mais vraiment, on se rendait compte que l'équipe avait un niveau global de.
Et là, justement, il y a une certitude.
Et là, il y a une certitude. Et je pense que si on perd demain, si on perd, ce qui est possible, ce que certains diront probable, on le fera d'une certaine manière parce que l'autre aura été meilleur que nous. Paraît bête, mais c'est rare.
L'équipe type de Liverpool, ça ressemble quand même à une machine de guerre. Alors, équipe très équilibrée. Défense centrale, quand même, Van Dijk, Konaté, c'est pas mal. Le milieu, très travailleur. Et puis devant, Mo Salah, 30 buts, 21 passes décisives. On peut citer Luis Diaz, Gakpo, Diogo Jota, Darwin Núñez qui est sur le banc. On parlait, pour toi, du duel Nuno Mendes-Mo Salah. Il y aura aussi Luis Diaz-Hakimi. Ça aussi, ça va envoyer.
Ça va être. Pour moi, le match va jouer sur les latéraux. Ça va dépendre de la manière de Luis Enrique de réussir à agencer, parce que Hakimi et Nuno Mendes sont extrêmement forts offensivement, ce sont peut-être aujourd'hui les deux meilleurs latéraux à leur poste d'un point de vue offensif. Sachant que Gakpo et Mohamed Salah ne défendent pas, quand ils vont avoir une sorte de double vague pour aller à l'assaut, on va avoir un PSG extrêmement dangereux. Mais aussi le désavantage et l'inconvénient, c'est que quand Hakimi se retrouve très haut et que Nuno Mendes se retrouve très haut, tu es extrêmement exposé. Donc là, Marquinhos, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, quand il n'est pas blessé, que ça, doivent compenser. Il va falloir trouver cet équilibre-là pour compenser les assauts. En fait, la stratégie, ça va être simple. Est-ce qu'on mise tout sur l'attaque et on dit à Nuno Mendes et à Hakimi d'aller mettre la pression extrêmement haut et ne pas les laisser respirer? Ou est-ce qu'au contraire, on leur dit de jouer défensif et de fermer? Moi, je pense que Luis Enrique, parce que c'est le style d'entraîneur à prendre des risques, il va aller... Allez les asphyxier.
On va l'écouter. Luis Enrique, comment a-t-il appris la nouvelle et comment a-t-il accueilli tout simplement ce tirage de sort?
J'étais en train de prendre un cappuccino avec ma femme et mon adjoint Raphaël Paul, mais je suis ravi de ce tirage au sort avec deux équipes de très haut niveau. Cela nous promet une double confrontation très spectaculaire et je pense très équilibrée. Je ne vois pas de favori, c'est du 50-50 pour moi.
Joe, c'est du 50-50, comme le dit Luis Enrique?
Non.
Non.
Alors, vas-y, réajuste. Non, c'est pas du 50-50.
Attends, bien, c'était bien ma
sûr,
question, en plus.
Bien sûr, Liverpool est favori, c'est normal. Mais moi, j'allais rebondir sur deux choses qu'on a évoquées précédemment. La première, c'est sur l'aspect mental. Je trouve que depuis que Luis Enrique est arrivé, on se rend pas compte, mais Paris a renversé pas mal de montagnes. Mmh. La saison dernière, Paris était au bord de l'élimination. Ils arrivent à s'en sortir et à passer en phase de poule. Ouais. L'année dernière, ils étaient menés au match aller contre le Barça et ils sont menés 1-0 et ils arrivent quand même, malgré tout, à retourner la situation, à gagner 4 buts. Cette saison, tu étais dans une situation hyper compliquée en Ligue des Champions. Tu devais faire deux exploits. Tu as fait deux exploits. Je pense que le PSG aujourd'hui, on sous-estime, parce que c'est normal, parce qu'on a quand même les séquelles du passé, que mentalement, je trouve que cette équipe est plus forte parce que son entraîneur est plus fort et il a été quand même l'entraîneur de la remontada. Donc, il n'y a pas de hasard à un moment. Il y a ça. Et aussi sur les points faibles, je pense que, bien sûr, on base surtout sur les latéraux, mais je pense que les points faibles aussi, enfin, en tout cas, sur ce sur quoi ça va se jouer, c'est sur l'efficacité. Parce que l'efficacité offensive du PSG, on l'a vu en première partie de saison, lorsqu'elle n'était pas là, bah Paris avait beau avoir des occasions, ça ne marquait pas. Et de l'autre côté, Liverpool est très dépendant de Mohamed Salah, parce que Cody Gakpo, Luis Diaz, ça crée des différences, mais ce n'est pas si efficace que ça. Si aujourd'hui tu arrives à bien cadenasser Mohamed Salah et tu arrives à vraiment faire un plan anti-Salah derrière, on a vu Darwin Núñez rater des grosses occasions en PL, et pareil pour le PSG, Paris sont capables de flanquer 7 buts en 9 tirs contre Brest, et de l'autre côté, bah, on a vu des matchs où ça a arrosé. Donc,
on va regarder le résultat du sondage. On vous a demandé sur le hashtag Cop Paris quel était le favori de cette double confrontation. Le résultat, bon, fait un petit peu peur ou pas. Très très large avantage pour Liverpool avec 75% des votants qui voient les Reds grands favoris de ces huitièmes de
finale. T'as vu comment on est bon quand même, parce qu'on a dit l'essentiel c'est marquer des buts, bien défendre, gagner les duels. Je pense que si on applique tout ça, on devrait être coach finalement à Cop Paris.
On passe à l'Omnisport, les amis, les résultats de vos clubs franciliens du week-end résumés par Thomas Zinski, et on se retrouve juste après la pub pour le grand quiz de Cop Paris. À tout de suite.
Le constat est amer, même face à Toulon, un membre du top 3. Le Stade français défait largement à Mayol malgré 30 premières minutes correctes. Doublé de Vainicolo, un essai de pénalité et Paris s'incline 24-6. Demi-finaliste l'an passé, les Soldats Roses sont désormais lanterne rouge du top 14. Au Racing, on sort enfin la tête de l'eau. Face à des Rochelais, eux aussi malades, Maniarara et Woki ont suffi pour réaliser un joli coup dans la course au maintien. Pour la première fois depuis le 4 novembre, les Racingmen s'imposent enfin un peu d'air pour remonter à la 11e place, 3 points devant le voisin parisien. En Star League, le PSG s'est repris. Une semaine après le nul concédé à Dunkerque, les Parisiens se sont imposés hier soir face à Pays d'Aix. Emmené par un grand Elohim Prandi, élu homme de la rencontre, le PSG s'impose 37-34 et reste après 17 journées deuxième du classement à un point de Nantes. En hockey sur glace, il n'y aura pas de play-off pour Sergi en Ligue Magnus cette année. Les Jokers ont tout donné vendredi lors de l'ultime journée de la phase régulière, mais ça n'a pas suffi face au leader du championnat. Défaite 2-1 en prolongation, les Jokers terminent à une décevante 10e place et disputeront le play-out pour le maintien. Et le but !
Le saviez-vous ? Avec l'ADEME Île-de-France, l'agence de la transition écologique.
C'était Le Saviez-vous avec l'ADEME Île-de-France, l'agence de la transition écologique.
L'art à son sommet est beau, intemporel, époustouflant. Découvrez 5000 ans d'histoire. Vivez Shen Yun.
Vous êtes à Paris et en Île-de-France ? Cette annonce est pour vous. ADG est une société de sécurité. Ça, vous le saviez déjà. Mais saviez-vous qu'ADG est aussi spécialisé dans le gardiennage de vos matériaux et le contrôle d'accès de vos chantiers de construction ? Sans oublier la sécurisation de vos bars, restaurants et événements. Retrouvez toutes les infos sur adg-sécurité.com.
De retour dans Cop Paris avec, vous allez le voir, un plateau plein, archi plein pour la dernière. Tous les chroniqueurs m'ont rejoint et on va se dire au revoir avec un petit quiz spécial qu'on vous a concocté. Ouh. Quiz spécial PSG, bien évidemment. Deux équipes, la team Bling Bling avec Franck, Clément, Jonathan à ma gauche et Farid. Et puis la team Pochettino avec Stéphane, Saïd, Jonathan B et Mathéo. Mathéo qui assume le nom et qui l'explique de l'équipe.
Et oui, première émission de Cop Paris il y a 4 ans et demi. Phrase devenue culte, je crois, dans la pop culture, on donne du caviar à un cochon, c'est ce que j'avais dit sur Mauricio Pochettino. Et ben nous voilà aujourd'hui, la régie se venge et on va lui faire honneur. Voilà, et contrairement à Pochettino, on va essayer de gagner, nous.
On salue Mauricio, merci. Merci.
C'est aux États-Unis.
Bon allez, on perd pas de temps, on y va tout de suite avec la première épreuve, épreuve des tirs au but. C'est simple, 5 questions par équipe, l'une puis l'autre en alternance, une seule réponse possible, 5 points à la clé pour chaque équipe. Je commence par vous. Combien de demi-finales européennes le PSG a-t-il enchaîné de suite dans les années 90? Une réponse.
5. Pardon, je ne vous ai pas concerté.
Moi, j'en ai aussi. Moi aussi.
Ouais. On est bon, ouais. Allez, c'est bon. Est-ce que vous avez l'identité des 5 clubs?
Okay. Oui, je pense.
Allez, vas-y.
La Juve.
La Juve, ouais, en premier, exactement, 93.
Et... Liverpool.
Liverpool, c'est un peu plus tard, c'est la dernière, 97.
Mais elle est là.
T'as pas dit dans l'ordre. Hein.
Milan.
Pas dit dans l'ordre. Milan, bien vu.
Y a pas Arsenal.
Arsenal. Et il te manque la 96, envie. La demi qui mène
au. Ah, bah, c'est Parme.
La Corogne.
La Corogne.
On enchaîne. Quel a été le premier équipementier maillot de l'histoire du PSG?
Clément, Clément, je sais que tu sais.
C'est pas des questions sportives, ça.
Question culture.
Nous, on sait.
On y va ?
Je crois que c'est le coq sportif.
Le coq sportif, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu, Jonathan.
Je trouve que le présentateur, il a vachement indiqué quand même que c'était.
Il a appelé Jean-Pierre.
Quel entraîneur, vous messieurs, la team Pochettino, quel entraîneur compte le plus de matchs à la tête du PSG dans l'histoire du club ?
Dans l'histoire du club ?
Ouais, je vous demande pas le nombre, l'identité de l'entraîneur.
L'identité ?
Une réponse, hein, messieurs.
C'est pas Luis Fernandez ?
Je sais pas.
Parce qu'il a deux passages.
Ah, disons.
Moi, je vois Arthur Georges, moi, mais.
Arthur Georges, il est aussi
Arthur
de passage.
Louis Fernandez, c'est l'un des deux.
Ouais.
Arthur
ouais. C'était Louis Fernandez.
Plus
244 matchs devant Georges Péroche, années 80. Et Laurent Blanc, quel est le plus gros transfert du PSG dans le sens des départs?
Facile, franchement, les gars. Les hésitations.
Ça, ça perd le point.
Toujours plus facile. Hein, quand
tu vois tout de suite, le côté bling-bling, ça marche moins bien.
Neymar, allez, on est bon. Neymar, 90 millions d'euros, le plus gros transfert dans les deux sens vers Al Hilal. Combien de titres de champion de France pour la section féminine du PSG?
Dit-il dans un plateau purement masculin.
C'est zéro, je crois.
C'est zéro, hein,
je crois. Ouais, je crois qu'elles ont.
Alors, il y a eu un titre pour les féminines du PSG
pour vous,
en
2021.
Quelle est la plus grosse victoire du PSG en Ligue 1? Score et adversaire. Il y en a deux.
Ah, mais c'est facile.
Ah, mais ça, c'est des questions faciles.
3. 0-9 à 3. Et il y avait PSG Guingamp également. Pour l'instant, carton plein de ce côté-là.
Excusez-moi, qui est l'entraîneur du PSG?
Oh, Pablo en face.
La corruption.
Neymar qui a été vendu l'année dernière.
Combien de fois les féminines du PSG ont-elles disputé la finale de la Ligue des Champions?
Je me casse.
Eh ben.
Non, je crois que c'est
une fois.
Deux ou trois.
Deux ou trois. Il y en a une où elles perdent en tour de but contre Lyon.
Une contre Wolfsburg.
Et j'ai pas le troisième.
J'ai de l'écho.
Il y a un tour.
Je pars ça, mais moi, je vais pas dire deux.
Non, c'était bien vu. Allez, je prends la réponse. Vous avez vu une question. Bravo, ça y est. Deux, effectivement, défaite contre Lyon.
Allez, à vous. Quel est le stade du Paris Saint-Germain?
But le plus rapide de l'histoire du PSG.
Oh là là.
Combien de secondes? À une seconde près.
C'était 7.
C'est 8.
Vraiment.
C'est 8.
C'est 8, ça ferme.
C'est du match, l'identité du match.
Lille PSG.
Toujours.
Vraiment,
c'est
une émotion.
On termine la séance des tirs au but. Les trois joueurs, messieurs, du PSG champion du monde en 2018.
Areola, Kimpembe, Mbappé.
Allez, bim, ça y est, ça passe.
Ah, c'était dur.
C'était dur. L'entraîneur le plus titré. L'entraîneur le plus titré de l'histoire du PSG.
Jean-Pierre.
Non, mais les gars,
c'est... Ouais, j'aurais dit ça aussi.
Oui.
Laurent Blanc avec 11 trophées, très exactement. C'est un carton plein sur les tirs au but pour la team Bling Bling. Ouais. La deuxième épreuve, ça se corse un petit peu, c'est le juste prix, hommage à Philippe Risoli. Question autour d'un chiffre, d'une stat, vous vous en rapprochez le plus ou vous me trouvez le chiffre correct. Un point par bonne réponse, un point pour l'équipe adverse si vous dépassez.
Moi, je gagne jamais, mais je me plains.
Je commence avec vous. Kylian Mbappé, meilleur buteur de l'histoire du PSG, combien de buts inscrits en 308 matchs avec le PSG?
Et 244.
Ouais, un truc comme ça.
C'est 234, un truc comme ça, mais je suis pas sûr.
Vous pouvez me donner un chiffre, si c'est au-dessus, c'est perdu.
Non, je suis pas sûr. Au-dessus, c'est perdu. 200 pour moi, dit. Ah, si c'est au-dessus, c'est perdu.
Ah ouais, il faut qu'on contempler pas. J'irai voir aussi, mais.
Attends, réfléchis. C'est simple. Son 200e but, il marque juste avant le match contre le Bayern, où il dit justement, la Ligue des Champions, je m'en fous, etc. Donc, c'est-à-dire que. Donc c'est un an et demi avant son départ.
Ouais, c'est ça. C'est au moins deux ans et demi. Au moins
237, je crois. Ouais.
Bon, moi je pense qu'il faut dire 235.
Je pense que 237, mais vas-y.
234 parce qu'il a dit 234.
234. C'est plus à vous, messieurs.
Moi j'ai dit que c'était 237.
Ah ouais, mais ça se passe comme ça.
T'as dit que tu disais que c'était plus. Il aurait pu dire moins.
Tu as dit quoi, 234
oui. Non, on a dit 242.
Non. Ils ont dit 234.
On a dit 920.
Nous, on dit 235. Oh là là,
mais tu as c'est plus.
C'est
plus,
on a dit 237.
242.
C'était 237
ouais. Non, c'est plus.
247.
On est à combien 240 combien
Moi, j'irais 247.
240, non, c'est plus.
Plus que 247 ?
C'est plus que 247.
Oh, ouais. Ah ouais. Non mais j'en enlève.
Ah la vache.
Mais ils comptent tous.
Allez, 264.
Non, moins. Non. Je sais pas s'il a fait.
254. C'est plus.
258.
C'est moins.
Oh là là.
256. Ouais. C'est pour vous, messieurs.
256 buts.
Angel c'est pour toi, Franck. Meilleur passeur de l'histoire du PSG. Combien de passes décisives a-t-il délivré en 295 matchs ?
119.
C'est vous qui commencez.
Ah ouais. Transfert marqué, toi.
96.
C'est plus.
119.
C'est plus. C'est moins. C'était 112. 112 passes décisives.
109. Je savais qu'il y avait 9.
C'est pour vous encore une
fois. Pourquoi avez... Ils sont trop loin. 96, 119.
Parce qu'on a dit aussi.
Moi, j'allais dire 109.
Non, mais alors, il faudrait peut-être, genre, chacun donne une proposition et celui qui est le plus proche gagne.
Que fait
c'est plutôt ça. Et on ne donne aucune indication.
Je quitte le
Pablo. Non, parce que là, parce qu'entre 96 et 119.
Julien, tu as un parti pris, on l'a compris.
Bernard Lama et le gardien. On change les règles si vous voulez.
Ah, merci.
Bernard Lama, le gardien, avoir réalisé le plus de clean sheet, marquant le but sans encaisser match. Sans encaisser de but dans l'histoire du PSG. En 318 matchs, combien ? Allez-y.
Enfin, la proposition.
318 matchs.
318 matchs. À l'époque, on n'était pas très bon. On dirait 75. Qu'il a fait un match sur 5. Donc tu divises 318 par 5.
75.
Pour moi, ça me paraît cohérent. 70.
70 ?
Ouais, 72 matchs, je pense.
Ouais. La stat, c'est que c'est une
belle. Allô, les gars, vous pouvez donner un truc ?
C'est vous qui êtes le plus proche. 137 clean sheets, 43% devant Joël Batz.
137
clean sheets. C'est quasiment.
Le problème, c'est que ton calcul n'est pas bon parce qu'il a été dans la meilleure période du match.
J'aurais pas dû t'écouter. Arthur Jean, j'ai décidé d'être très marseillais ce soir. Je me plains, je ne gagne pas. Voilà,
Marquinhos, on enchaîne, est le joueur le plus titré de l'histoire du PSG et même de l'histoire du foot français. Il a battu le record tout récemment en remportant le trophée des champions. Combien de trophées a-t-il remporté avec le Paris Saint-Germain? Faites-moi deux propositions, je prends la plus proche.
Je peux entendre la question, les gars.
Ça fait 10 ans qu'il est là. En moyenne, tu gagnes à peu près 3 à 4 trophées. Ils ont commencé. Ça peut être plus.
Il arrive en quoi?
Puisque maximum par saison, tu gagnes 3 trophées. Alors à un moment, tu pourrais en gagner 4.
Ouais, mais attends, il arrive
en 12. Sauf que tu gagnes pas la Ligue des Champions.
En 12, 36.
Moi, j'aurais dit 26.
Non, il arrive en quelle année, Marquinhos?
2012.
2012, donc ça fait 12 ans.
Ou 2013.
Non. Ouais. Pour moi, je dis. Ils ont dit combien?
2013.
31.
Je dis 32.
C'était 31. Le chiffre.
Oh là là!
atteint, atteint lors du trophée du champion.
Et là, on ne peut rien faire.
Là, on peut pas trouver un argument.
La dernière question sur cette rubrique juste prix, les trophées UNFP.
But en or ou pas?
Grégo. Trophée UNFP depuis 1994 récompense le meilleur joueur de Ligue 1. Il y a eu 30 trophées décernés. Combien de joueurs du PSG ont reçu ce trophée de meilleur joueur de Ligue 1?
Combien de joueurs? Pas combien de joueurs, fois
pas combien de fois, okay, parce qu'il y a des joueurs qui l'ont reçu plusieurs fois.
Ah merde, je suis en train de compter combien de fois.
Marco, il n'a pas eu?
Non.
Vous pouvez...
On
peut le faire à haute voix, parce qu'on fait de la télé.
Non, mais il y a du Mbappé, Neymar, Ibra, Cavani. Ça, c'est sûr. On en a 4.
Paoletta, il y a 5.
Paoletta, 5.
Parce que Paoletta, effectivement, au PSG, je ne sais pas si au PSG, il en a eu un. Au PSG, il en a eu un.
Et dans les années 90 aussi. Ah non, ça fait.
Au PSG, à l'époque,
PSG.
Dans les années 90.
J'aurais dit à Bordeaux, mais au PSG, je suis
quasi sûr qu'il l'a. Dans les années 80. Un mec comme Georges Weah, non?
En fait, moi, deux propositions.
Jean Biard.
Je vais dire 20 Biard.
6 aussi.
Ah bah non.
6. Allez, c'était 7.
7. Ah mais non, t'es sur 7.
C'était 7. Je vous donne la liste. Donc, il y avait effectivement Ibra, Cavani, Neymar, Mbappé. Il n'y avait pas de Paoletta. Il y avait Marco Simonet en 98. Il y avait Vincent Guérin. Et il y avait David Ginola. On va faire pour la forme et pour le fun la dernière rubrique.
Qui tout double, vous êtes d'accord?
Non.
Qui tout double?
On a eu le point d'ordre.
La compo fantôme. Retrouvez-moi les 11 titulaires d'un match de légende du PSG. On n'aura pas le temps de tous les faire. La première équipe qui se trompe ou n'a pas de réponse donne le point à l'adversaire.
Un match où j'étais pané.
On démarre avec le match mythique, le PSG Rapide de Vienne. Ça, c'est pour les plus anciens. 8 mai 96. Allez-y, donnez-moi la compo. Il faut m'en donner un bon. Et puis.
Ngoti.
Ngoti. Alors, qui me donne Ngoti? Allez, Ngoti, c'est bon.
Rai.
Lama.
Alors, Rai, Lama.
Lama.
Leonardo.
Lama.
Non, surtout pas Leonardo.
Lama à droite, c'est bon.
Ah, il pas l'époque.
Non, non.
Rai.
Rai est là, Rai sort au bout de quelques minutes.
Oui, ouais, mais il est là.
À vous, les gars. On a déjà Lama, Ngoti, Rai.
Laurent Fournier.
Tout à fait, Laurent Fournier est là.
À Le vous. Gouen.
Le Gouen est là.
Avec son numéro 6.
Il vous en manque 5 encore. Alain Roche est là, bien sûr.
Youri Djorkaeff.
Youri Djorkaeff.
Oh là là, pff, ouais, c'est...
Il nous en reste 3. Un défenseur, un milieu, un attaquant.
Un défenseur, un milieu, un attaquant.
C'est à
un
qui,
attaquant.
Là
un attaquant.
À vous.
Un attaquant, qui jouait devant?
Tim Ling Ling.
Je crois que j'ai cet attaquant. Mais
ouais, Tim Ling Ling, elle n'est plus là. Il faut nous donner la main.
C'est à qui là?
C'est à nous, c'est à Jean-Luc.
C'est à
eux,
c'est à eux. C'est à nous. C'est à vous. Un joueur, les amis.
Comme Boiré?
Non, comme Boiré, non. Non, non, c'est pour vous. Il est pour vous, ce point. Allez, on attend d'en faire une dernière. Vas-y. Autre finale.
Est-ce qu'il n'y a pas Dely Valdés en pointe?
Dely Valdés était remplaçant. Patrice Loco
était
en attaque avec Youri Djorkaeff. Il manquait Patrick Colter et Daniel Bravo.
Ah ouais, bravo.
On enchaîne, on va terminer avec l'autre finale de Coupe d'Europe disputée par le PSG. Beaucoup moins bon souvenir pour les Parisiens le 23 août 2020. PSG Bayern Munich. La finale, allez-y, la compo de cette finale, c'est qui?
Qui commence?
Bah, Navas.
Mbappé.
Navas.
Kerrer, Navas.
Navas, allez, Navas, c'est bon.
Kerrer
est là.
Kimpembe.
Kimpembe est là.
Marquinhos
est là.
Thiago Silva
est là. Il avait rempilé pour le Final 8.
Bernat,
vous avez toute la
défense. Herrera aussi.
Dans un fabuleux milieu de terrain où Marquinhos était milieu de terrain.
Et Herrera avait été très bon.
Herrera, et il en manquait au milieu de terrain.
Paredes,
tout à fait. Il vous manque les trois attaquants.
Neymar, Mbappé
et Di Maria.
Eh bien, bravo, messieurs, on va faire un
parcours. Donc, on a gagné.
C'était le qui tout double, celui-là?
Ouais.
Je suis même pas sûr de devoir demander à Maxence les résultats. Parce
quand on s'appelle
Maxence, je quitte le col.
Après de couture de la team Bling Bling. Ouais. Pourquoi la team Bling Bling d'ailleurs? Ça te manque?
Oui, parce qu'on veut des stars, on veut du Bling Bling, on veut de l'incohérence au PSG.
Ouais, ça nous manque.
D'où la team Pochettino. On t'apporte ce que tu veux.
On veut la même chose, du coup.
Il nous reste une minute avant de faire mon petit laïus. Allez-y, si vous voulez, rapidement, les amis.
Perso, moi je suis là depuis 2021, c'était un vrai plaisir, première expérience télé, c'était incroyable de rencontrer des passionnés du PSG comme moi, d'en parler librement à la télé. Voilà, c'était une aventure formidable que j'oublierai jamais.
Je pense que tout allait bien jusqu'à ce que Jonathan arrive.
Moi, l'un des derniers à être venu sur le plateau, c'était vraiment un gros gros plaisir de faire votre connaissance et de parler du club de notre cœur, le Paris Saint-Germain.
Ouais, merci à toi, Jordan, Ilias, Eva, tous les programmateurs. C'était super de parler du Paris Saint-Germain, notre club de cœur.
Clément,
oui, exactement. Toujours très bien reçu ici, toujours avec une liberté de ton.
avec un plateau différent à chaque fois.
Franchement,
c'était super.
Le budget.
Encore merci à tous.
Bah, tu as fêté tes 50 ans sur le plateau.
Ouais, j'ai fêté mes 50 ans ici l'année dernière. J'ai fêté mes 51 pendant Liverpool-PSG. Victoire, bref, on verra. Ouais. Mais en tout cas, non, tribune hyper agréable à saisir et rencontre de ouf, quoi. Donc merci.
51 ans, il fait plus jeune que moi.
C'est déprimant.
Très belle manière de refermer cette émission. C'était la meilleure manière, en tous les cas, qu'on a trouvé pour refermer.
Dire une chose, Julien. On laisse le club dans un meilleur état qu'on l'a pris.
Oui, que tu l'as pris au moment où.
Moi, je l'ai pris, ça n'allait pas du tout, mais on le récupère à un moment où ça va mieux. Et on sera tous là, ensemble, dans le petit groupe WhatsApp qui lit tout le monde, pour célébrer, débriefer et insulter Fabien Ruiz après chaque mauvaise prestation. Parce que c'est le chouchou de Julien.
Un grand merci à vous tous, derrière votre écran, pour nous avoir suivis au fil des années. Des hauts et des bas, comme tu le disais, du Paris Saint-Germain. Ça a été un immense plaisir pour moi de présenter pendant 2 ans cette émission, principalement grâce à vous, les chroniqueurs, pour votre disponibilité. Je l'ai souvent répété aussi, pour la finesse, le recul de toutes vos analyses. Franchement, ça a été... Beaucoup plus facile pour moi de présenter cette émission-là grâce à vous en plateau toutes les semaines. Cop Paris, c'est fini, les amis.
Oh là là, les gars.
Cette fois-ci, pour de bon, on se dit à très vite. On lâchera pas le PSG, je pense. Puis la saison est loin d'être terminée. Merci à tous. Prenez soin de vous et puis vive Cop Paris.
Ici, c'est Paris, les gars.